Voilà, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui deux personnes. Catherine Gracier, qui est journaliste et grand reporter et qui a signé et publié le livre Sarkozy-Kadhafi, histoire secrète d'une trahison aux éditions du Seuil. Et puis à côté d'elle, Franck Pucciarelli, qui est évoqué, cité dans le livre et qui apporte un témoignage tout à fait saisissant. C'est pas le seul, parce que c'est un livre qui est tout à fait remarquable du point de vue de la rigueur de l'enquête. On va y venir dans un instant. Et Franck Pucciarelli est un des fondateurs d'une structure qui s'appelle le RILUD. Vous allez vous expliquer dans un instant, Franck, de quoi il s'agit. C'est pour un rassemblement pour l'indépendance de la Libye unie et démocratique. Vous allez nous expliquer dans un instant de quoi il retourne. Alors, ce livre de Catherine Gracier, qui est sorti à la fin du mois d'août, début septembre, pour vous donner une idée, 72 personnes rencontrées pour faire ce livre, et puis 8 mois d'enquête, certaines personnes vues plus d'une dizaine de fois, et c'est un livre qui, page 15, j'allais dire, met les pieds dans le plat, hein, affirme, hein, qu'il y a eu financement, versement d'argent de la part de Muammar Kadhafi à Nicolas Sarkozy. Alors après, le montant va faire l'objet d'évolutions, hein, 50 millions d'euros, 57 millions d'euros, éventuellement dans les 57-7 millions pour l'intermédiaire, et puis des versements 20 millions d'un côté, 30 millions de l'autre pour arriver à 50. En tous les cas, c'est un livre qui a une thèse et qui est extrêmement rigoureux dans la démonstration de la thèse. Et j'ai envie, Madame Gracier, d'abord que vous nous présentiez évidemment votre travail, votre démarche. Il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Un moment dans le livre, vous évoquez, enfin, il est fait mention de votre jeunesse, et vous dites, vous rencontrez un interlocuteur qui s'appelle Tahar. Et cet homme, vous en parlez au tout début du livre, Tahar, avec une autre dame qui s'appelle Zohar Mansour. Tahar a été torturé et au moment de la chute de Muammar Kadhafi, il a été torturé et il y avait des Français, dit-il, raconte-t-il, à ces séances de torture. Et ce Tahar, c'est quelqu'un qui était extrêmement bien renseigné, qui a eu un rôle parmi, avec d'autres, hein, dans la Libye de Muammar Kadhafi, en particulier en appartenant à ce qui en Iran s'appelle les gardiens de la révolution. Donc là en Libye, c'est pas exactement la même appellation, mais c'est en quelque sorte, on pourrait dire, c'était près du cœur du régime. Et alors, je voudrais que vous disiez ça. À un moment, ce Tahar vous discute avec vous et il vous a, dans une petite note infrapaginale, il faut toujours lire les notes, hein, page 100, vous témoignez à la première personne et vous dites « Lorsque j'étais enfant, vous, Catherine Gracier, dans les années 70, mes parents et moi avons vécu quelques mois en Libye, à Tripoli. Plus de 37 ans après, Tahar m'a communiqué l'adresse de notre maison familiale, l'endroit où ma mère faisait ses courses ainsi que le nom de notre chienne. Autant d'éléments très précis que j'étais bien en mesure de vérifier, que j'étais bien sûr en mesure de vérifier auprès de mes parents et qui se sont tous révélés parfaitement exacts. Ils ne pouvaient provenir que de vieux dossiers des services de sécurité libyens auxquels Tahar a manifestement accès. » Cette petite note-là, c'est 7-8 lignes, ça m'a semblé assez emblématique de la tonalité générale de votre travail. On a l'impression que tout le monde sait tout sur tout le monde, que tout le monde a surveillé tout le monde. J'allais dire, qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents en Libye dans les années 70? si vous pouvez nous le dire.
Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce qui vous a amené ? Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé sur le Maroc précédemment, vous êtes publié sur le Maroc. Qu'est-ce qui vous a amené à vous pencher et à travailler sur ce dossier extrêmement chaud, extrêmement brûlant ? Est-ce que c'est cette enfance libyenne ?
Oh. Donc, bon, pour revenir sur les informations de Tahar, j'ai habité en Libye quelques mois en 1975 et début 1976. Et mon père, tout simplement, travaillait chez Renault, enfin, les automobiles Renault, et dirigeait Renault en Libye. Et voilà, a eu à gérer plusieurs affaires avec les Libyens, notamment la nationalisation forcée par le colonel Kadhafi. Et voilà, et 38 ans plus tard, Tahar avait le détail de la vie de mes parents en Libye, allant jusqu'au nom du chien, jusqu'à la description de ma mère et les habitudes de l'endroit où elle faisait ses courses. Donc bien sûr, ce que voulait montrer Tahar, c'était quelqu'un qui avait accès à des informations et à des dossiers. Parce que quand on travaille sur la Libye, il y a une très grande difficulté. C'est que ce pays attire énormément d'escrocs. De barbouzes, de gens peu recommandables, d'agents de renseignement troubles, dont ne sait quel pays. Donc c'est très difficile de faire, de démêler le vrai du faux et de trouver le bon témoin. Donc je pense que c'était une manière parmi d'autres pour Tahar de montrer que lui, contrairement à d'autres, pouvait avoir accès aux dossiers libyens, qui sont absolument clés puisque les faits qui concernent le président Sarkozy datent de 2005, 2006, 2007. Donc il faut pouvoir avoir accès à ces dossiers. Et je pense que c'est ce qu'il a voulu montrer.
Alors comment est-ce que ça vous est venu de cette idée de travail sur cette affaire
sur l'affaire libyenne. Alors pas liée à mon séjour dans ma très tendre enfance à la Libye, mais en fait moi je suis journaliste spécialisée Maghreb. J'ai habité quelque temps au Maghreb.
Vous parlez arabe ?
Je le comprends très correctement.
D'accord. Voilà. Est-ce que c'est pas nécessaire, hein ?
C'est mieux. Ouais. C'est mieux. Par respect pour les gens qu'on interviewe, mais c'est vrai qu'au Maghreb, il y a quand même on peut parler en français, on peut travailler souvent en français ou en anglais, mais bon, plus souvent en français. Sur la Libye d'ailleurs, j'étais avec des francophones. Donc ce qui m'a donné envie, en fait, je me suis dit, ok, c'est un sujet dont tout le monde parle. La police judiciaire, les magistrats, les politiques, les confrères journalistes, les avocats d'affaires, tout le monde se met dessus. Mais au fond, qu'est-ce qui sort ? Et je me suis demandé, est-ce que moi, avec mes contacts Maghreb, que ce soit en Algérie, au Maroc, ou en Tunisie, ou en Libye aussi, est-ce que moi, je pourrais apporter quelque chose d'autre ? Et voilà, et c'est ça qui m'a donné envie de gratter, comme on dit dans le jargon journalistique, et aussi parce que, avec mes précédentes enquêtes, j'ai toujours croisé la Libye et le colonel Kadhafi. Toujours. Souvent pour des questions d'argent ou de diplomatie ou d'affairisme, mais j'ai souvent croisé le colonel Kadhafi.
Vous l'avez jamais rencontré ?
Non, moi non.
Non.
Non, j'ai pas eu le temps.
mais Mona Interman, oui.
Ouais, je pense qu'elle s'en souvient très bien, malheureusement.
Peut-être rappeler d'ailleurs.
Elle s'en souvient.
Mona Interman, un grand reporter à
France 3,
à France 3 hein,
qui a
raconté
une très grosse déconvenue avec le colonel Kadhafi.
Vous dites d'ailleurs à un moment dans ce passage tout à fait incroyable qui est l'affaire Cecilia Sarkozy, il y a même une inquiétude. Elle voit deux fois en tête à tête Kadhafi et l'entourage dit.
Moi je sais parce que j'ai parlé à Cecilia très longtemps pour ce livre.
Elle avait peur.
Elle a souhaité témoigner. Ouais. Pas ne pas apparaître parce qu'elle sortait ses mémoires quatre semaines plus tard, donc elle ne voulait pas griller son éditeur, mais néanmoins elle a souhaité pouvoir raconter sa version de l'affaire des infirmières bulgares. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'elle avait en tête. Elle m'a vraiment dit qu'elle avait la peur au ventre en marchant dans les longs couloirs du palais de colonel Kadhafi. Et c'est quelque chose qu'elle avait en tête, mais qu'en fait, il ne s'était pas spécialement passé quelque chose qui relève de ça. Quoi.
Est-ce que je peux demander à Franck Pucciarelli, vous, alors, je ne sais pas, est-ce que depuis combien de temps vous connaissez la Libye et quand est-ce que vous y êtes allé pour la première fois ?
Alors moi, j'ai eu des relations d'affaires à petit niveau, parce que je suis dans l'activité du marbre et de la pierre. Donc j'avais quelques acquaintances avec des entreprises. Et je me suis rendu à l'invitation d'amis libyens lors de, au début de la résolution de l'ONU pour venir constater la conséquence des bombardements de l'OTAN sur les populations civiles.
Voilà. Ça fait l'objet d'un article publié dans Le Bien Public, c'est le journal de Dijon, enfin de Beaune.
Tout à fait, Dijon, Côte d'Or, je suis natif de cette région.
Le 20 juillet 2011, puisque c'est au titre aussi d'un observatoire qui s'appelle l'Observatoire international pour la paix, que vous êtes allé en Libye. Mais est-ce que vous y étiez allé avant la guerre?
Oui, bien sûr. Moi, j'ai quelques activités professionnelles.
Quelques connaissances à moi qui avaient contourné l'embargo pour vendre des Toyota depuis la Tunisie en Libye. À l'époque, c'était strictement interdit. Vous n'allez pas nous le dire,
mais
combien de temps les relations commerciales avaient pu être reprises?
Je suis jeune, donc ça faisait 2 ans.
Ah, c'est ça,
voilà, c'était assez...
On a l'impression d'ailleurs qu'en 2005-2006, il y a une espèce d'efflorescence pour aller faire du business en Libye. Vous racontez ça, tout le monde y va. Il y a même un salon aérien qui est absolument incroyable, à l'AVEX. L'AVEX 2007. Mmh. Donc il y avait des relations commerciales qui se développaient beaucoup.
D'autant plus qu'en septembre 2010, un grand appel d'offres avait été lancé par le gouvernement libyen de l'époque en vue de reconstruire la Libye. Donc il y avait plusieurs milliards d'ailleurs qui avaient été posés sur la table, dont beaucoup d'entreprises françaises avaient pu obtenir des contrats, Bouygues, Dumez et bien d'autres, Veolia, et qui de fait n'ont pas pu être honorées au vu de la situation catastrophique que connaît la Libye actuellement. Donc moi je m'étais rendu à cette occasion dans l'activité du marbre. Voilà.
Et j'allais dire, est-ce que vous étiez allé en Libye, vous, par contre avant la guerre?
Avant, non, mais j'avais régulièrement rencontré des Libyens à Paris.
D'accord,
parce qu'ils voyagent beaucoup, voyagent énormément, et puis aimaient beaucoup venir en France, et c'est vrai que j'ai pu en rencontrer, et puis j'en ai croisé aussi en Algérie.
Donc, quand vous êtes allé, Franck, en Libye pendant la guerre, pendant les bombardements, dans le livre, Franck Pucciarelli apparaît comme un des informateurs privilégiés de Madame Gracier, avec quelqu'un d'autre qui s'appelle Fabrice. Vous dites d'ailleurs que vous avez assisté à des bombardements très violents.
Tout à fait.
Au moment où vous étiez.
Tout à fait.
Compris dans l'article dans le Bien Public, vous faites une présentation tout à fait particulière de la situation en disant finalement le fameux Conseil national.
De transition,
transition CNT, qui représentait pratiquement que lui-même, en gros.
Tout à fait.
Et le pays, finalement, ne souhaitait pas la chute de Kadhafi. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça?
Je me suis rendu sur place, donc j'ai été à différentes occasions à Tripoli pendant le conflit, et j'ai pu observer, c'était le 27 juin 2011, à Tripoli même, une manifestation où plus d'un million de Libyens à Tripoli manifestaient leur soutien à Muammar Kadhafi. Voilà.
Donc la guerre, elle commence en mars.
En mars.
Voilà. La fameuse opération Armatan.
Tout à fait. Le deuxième déplacement, une manifestation en soutien a eu lieu à Zawiya, qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de Tripoli, où il y avait à peu près 400 000 personnes. Donc ça, je le constate. Ça, c'est un fait. D'autre part, ce qui m'étonne, c'est que lorsque j'arrive à Tripoli, il n'y a pas de couvre-feu. Il n'y a pas de militaires dans la rue. Il y a une activité, des commerces. Ce qui m'a stupéfait, d'ailleurs, c'est toutes ces voitures qui sont alignées, puisqu'il y a une pénurie d'essence. Et donc, il y a des kilomètres de voitures. Les gens laissent leur voiture à la station, puisqu'il n'y a pas d'essence. Mais à côté de cela, les gens sortent le soir, il y a une activité, les parents sortent.
Pour bien comprendre, les gens sortent, mais il y a des bombardements aériens.
Tout à fait. Alors une petite anecdote, à chaque fois qu'un bombardement avait lieu, vous aviez la population qui se rendait sur le site pour protéger, si vous voulez, pour éviter qu'il y ait d'autres bombardements. Ce qu'on appelait le palais de Muammar Kadhafi,
Bab al-Azizia.
Voilà, tout à fait. Moi, j'ai eu l'occasion, étant dans le marbre, j'ai eu l'occasion de voir certains palais, certaines demeures très luxueuses. Je peux vous assurer qu'en l'occurrence, Kadhafi vivait dans une tente. il faut quand même le rappeler, on n'était pas dans un luxe effréné. Je me souviens même que dans sa tente, il avait une télévision, les vieilles télévisions. Bon, c'est quelqu'un qui n'était pas matérialiste, hein, il n'avait pas un goût effréné du luxe, à contrario de ce qu'on a pu nous rapporter à travers les médias. Et donc, à Balbazizia, la population protégeait pour éviter le bombardement. Donc vous aviez les Toubous du Sud qui étaient venus en masse, planter leur tente à côté de celle de Mouammar Kadhafi. Et naturellement, ils jouaient les boucliers humains, quoi, tout simplement. Donc j'étais assez effaré du soutien qu'on ressentait. Alors après, on nous a reproché en disant « Bon, attendez, vous êtes partis là-bas, vous avez été sous contrôle. » Pas du tout. On se déplaçait à Tripoli le soir. On était à l'hôtel Corantia. À l'autre hôtel, sur le deuxième voyage, sur le premier voyage, je ne me rappelle pas, mais on avait tout loisir de nous promener. Alors bon, bien évidemment, il y avait une voiture qui nous suivait un peu, je pense que ça devait être la sécurité. Parce que, étant français, la France bombardant, on aurait peut-être pu avoir un problème. On sentait qu'on était protégé, mais pas surveillé. Vous voyez ce que je veux dire.
La Libye, dans le système Kadhafi prend le pouvoir en 69.
Hein, 69. C'est
ça. Il est considéré un peu comme un Nasser des années, de la fin des années 60.
C'était son modèle, en tout cas.
Là, c'est son modèle. C'est un jeune officier. Il a tout juste un petit peu plus de 30 ans, je crois. Hein.
27 ans.
27 ans, oui, donc voilà. Et il met en place un système politique qui fonctionne beaucoup sur un jeu subtil entre les tribus. Hein.
Mm-hmm. C'est ça. C'est essentiel.
Voilà, hein, donc c'est un système qui est un système tribal au sens de clan, hein, de grande famille, hein, extrêmement élargi. Hein. Mm-hmm. Et en plus, lui, son fief, c'est Sirte. Hein. Mm-hmm. Alors Sirte, pour situer sur la carte, c'est entre Benghazi, qui est à l'est, près de Tobrouk, vers la frontière égyptienne, et je le fais dans le sens là pour que vous puissiez bien voir, et donc à l'envers, et ici la Tunisie, hein, donc plutôt avec Tripoli, et Sirte, c'est dans le Golfe, quoi, enfin le Golfe de Sirte. Bon. Et puis, c'est un immense pays où en gros, la population est quand même, on va dire, agglomérée sur la partie littorale, quoi, hein. Et au sud, il y a d'immenses régions,
hein, désertiques,
dont une qui est bien connue, hein, qui s'appelle le Fezzan, puisque ça a été entre autres le lieu de constitution de l'armée Leclerc, hein, ce qu'on a appelé le régiment de marche du Tchad, et on voit réapparaître en particulier la ville de Koufra, hein, et le fameux serment de Koufra qui est essentiel dans l'épopée de la Deuxième Guerre mondiale pour les forces françaises libres. Alors, finalement, ce jeu entre les tribus, ça va aussi impliquer des moments de disgrâce, d'énormes luttes intestines à l'intérieur du régime. Hein. On voit apparaître des se tirs dans les pattes, hein, entre Moussa Koussa, Béchir Salé.
Bah c'est Sissi, plus. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le pays qui est un pays tribal, et je pense qu'on ne peut pas comprendre la Libye d'hier, la Libye d'aujourd'hui, la Libye de demain, voilà, si on n'intègre pas que c'est un pays qui est composé de tribus qui font des alliances entre elles et qui font des allégeances. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est au niveau du sérail, les hommes autour du colonel Kadhafi. C'est vrai qu'il y a eu grâce et disgrâce. Certains ont été des hommes forts par moment, et puis après tombés en disgrâce, et il y en avait d'autres. Mais enfin, bon, quand même, il y avait quand même des constantes, et les cercles sont bien connus. Donc il y avait le premier cercle, qui était le cercle de la famille, où il y avait les enfants du colonel Kadhafi. Donc,
combien elle a d'enfants ?
6. Il y a Mohamed. Alors, on va compter Mohamed, Saadi, Aïcha, Saif, Saif al-Arab.
Camis,
6.
Mourad Sim.
Mohamed.
Un qui va mourir, qui va être blessé juste à la fin.
Il y a Saif al-Arab qui est décédé suite à un bombardement de l'OTAN.
D'accord.
Et puis vous avez Saïf Al-Islam
qui est actuellement
en détention.
Zenten, on va y revenir, voilà, hein, puisque Zenten, c'est essentiel.
Oui, là, c'est
alors, donc, six enfants, une fille très importante.
Aïcha. Hein, parce que son père adorait et elle adore son père.
Voilà, alors avec un conflit entre Saïf Al-Islam et Aïcha.
Par moment. Ça, c'est le père.
Par moment.
Par moment. Ça, c'est le père qui gérait un petit peu les conflits entre les enfants. Parce que quand il a ouvert l'économie, évidemment, les enfants ont pris des positions importantes sur les différents marchés libyens. Donc, il y en avait un qui avait les télécoms. Aïcha faisait beaucoup de business dans l'immobilier. Il y en avait un autre qui avait...
Donc, ça, c'est un système clanique.
Système clanique classique. Voilà, classique, comme on peut avoir en Algérie ou dans une moindre mesure au Maroc. Ouais. Donc, il y avait la famille. Dans la famille, il faut rajouter également une personne extrêmement importante qui s'appelle Abdallah Senoussi.
Qui est le numéro 2 du régime.
Qui a été le numéro 2 du régime et qui a la caractéristique d'avoir été condamné à perpétuité en France dans le cadre de l'attentat contre le décédiste du TA. Donc lui était marié avec Kadhafi, faisait partie de la famille. Et puis autour, il y avait des gens certes importants, mais qui restaient des serviteurs. Donc c'est le cas de Béchir Salé, dont on parle pas mal dans la presse. Béchir Salé, qui était très important pour les Français, parce qu'il était parfaitement francophone et avait effectivement l'écoute du guide, mais Béchir Salé restait un serviteur et ne signait pas les contrats, contrairement à ce qu'on crut pendant très longtemps les Français, notamment Dassault. Puis il y avait aussi Moussa Koussa, qui lui était un révolutionnaire pur et dur, qui a été extrêmement puissant, extrêmement important jusqu'en 2008.
Chef des services de renseignement.
Chef des services de renseignement extérieur et Abdallah Senoussi, chef des services de renseignement militaire. Et Béchir Salé était l'argentier du régime. Quand je dis l'argentier, je dis celui qui porte la valise, pas celui qui décide des investissements.
Tous ces gens-là sont parfaitement connus des services occidentaux.
Il était totalement. Alors Béchir Salé a été totalement traité par les services français, comme on dit. Mm-hmm. Moussa Koussa, ça je le raconte dans le livre, se rendait déjà sous Chirac, se rendait régulièrement en France pour rencontrer les services. Mais c'était des réunions classiques. Hein. Les services français ont ce type de réunion avec les responsables des services d'autres pays. Moussa Koussa traitait beaucoup de dossiers antiterroristes, puisque la Libye avait un rôle clé dans la lutte antiterroriste au Maghreb. Et à ce titre-là, il rencontrait pas mal de gens en France, notamment au ministère de l'Intérieur, voilà, dont Nicolas Sarkozy.
Alors ça, je crois qu'il faut bien expliquer. Pendant donc, les années, on va dire, 80-90, ça correspond, entre autres, à l'attentat de Lockerbie, à l'attentat contre le décidiste du TA. Il y a un embargo. La Libye est considérée comme un pays pourri, un pays voyou.
Un État terroriste.
Mmh. Avec l'embargo américain, le bombardement américain d'ailleurs de Bab Azizia que Kadhafi va faire visiter après à chaque fois.
Il l'a érigé.
Un monument, etc. Mmh. Bon. Et puis, à partir de 2001, mm-hmm. les choses basculent parce que finalement, les Occidentaux se rendent compte que Kadhafi, qui veut revenir en grâce, devient finalement un vecteur de la lutte contre Al-Qaïda.
D'une part, effectivement, la Libye était un verrou sécuritaire pour la France, que ce soit en matière d'immigration clandestine ou de lutte antiterroriste. Ça, c'est vrai. Mais ce que les Occidentaux, enfin les Européens voyaient, c'était aussi que c'était un État pétrolier. Donc un État qui avait énormément d'argent et énormément de cash. Et qui plus est, le colonel Kadhafi aimait acheter de l'armement. Et ça, je le raconte dans le livre. C'est pour ça que bien avant la fin, la levée de l'embargo, les Français, le gouvernement Jospin, le gouvernement de Lionel Jospin, a donné un feu orange à différents intermédiaires en armement pour commencer à négocier des ventes d'armes en vue de la levée d'un embargo, mais qui est intervenu...
De 1997 à 2002. Hein.
Voilà, qui est intervenu des années plus tard. Donc j'ai effectivement rencontré un vendeur d'armes français qui, voilà, contrairement à d'autres, a vraiment fait des affaires.
Alors, Bernard
Chesnel. Bernard Chesnel.
Alors lui, il vous parle beaucoup.
Il me parle beaucoup parce que j'écris ses mémoires aussi en ce moment, c'est
d'accord,
pour ça.
Ouais.
Mais a travaillé sous différents présidents. Mitterrand, Chirac, et puis Sarkozy. Et lui est arrivé en Libye en 97. Donc a commencé à ouvrir des négociations pour des ventes d'armes en 1997, ce qui est bien avant la levée de l'embargo qui est intervenue en 2004. Voilà, donc c'est pour dire que très tôt, que ce soit la droite ou la gauche, il y a eu un intérêt pour les pétrodollars du colonel Kadhafi.
D'accord. Dans le livre, on a parlé là des Libyens qui sont dans le régime, hein. Il y a aussi alors ces fameux intermédiaires,
hein,
qui sont des facilitateurs. Alors, les noms, ils sont assez souvent dans la presse en ce moment. Ça tourne toujours autour des mêmes. Hein. Alexandre Djouri, hein. Alexandre, c'est le prénom qu'il prend. Il vient de la banlieue parisienne. Il est désigné par ses adversaires comme le Kabyle, hein, c'est ça, voilà. Et puis
d'origine algérienne,
hein. Et puis Ziad Takieddine,
l'inénarrable, hein. Ziad Takieddine, ouais, j'ai rencontré,
qui est constamment dans la presse aussi. Hein. Et puis on va voir apparaître alors quelqu'un qui est beaucoup plus secret, hein, que vous allez réussir à loger, comme on dit, qui s'appelle Souhey Rached. Mm-hmm. Alors lui qui est d'origine libanaise, on va y revenir. À quoi servent ces intermédiaires, j'ai compris qu'ils se graissaient la patte assez facilement,
oui.
avec des commissions, on va dire.
Bah, c'est
quoi leur job, et
leur job,
et pourquoi est-ce qu'ils sont, ils ont pignon sur rue, hein.
Oui, alors davantage maintenant qu'avant, parce qu'ils ont toujours existé sous tous les présidents. Ça, faut absolument pas se voiler la face dessus. Leur travail, si vous voulez, c'est de faciliter, dans le cadre de contrats dits stratégiques, donc pétrole, armement, infrastructures importantes, c'est de faciliter la communication entre les Français, donc entreprises et États, et puis les dirigeants d'un pays. Donc concrètement, ils identifient, là je vais être très sincère, ils identifient la personne à corrompre, ils organisent comment porter la valise, et accessoirement, ils gèrent les rétrocommissions en France. Voilà, pour parler très franchement, leur métier, c'est ça.
Excusez-moi d'être un peu trivial, mais ça peut pas être fait par des fonctionnaires, ça.
C'est strictement interdit de corrompre des chefs d'État étrangers, bon, pas encore, mais c'est totalement interdit, puis les commissions sont interdites depuis 2000. Mais ça existe toujours, donc tout ça s'organise. Ça peut pas être un virement bancaire, je dis n'importe quoi, de Société Générale à Qatar National Bank. Ça doit passer par des circuits assez opaques qui transitent par des paradis fiscaux avec du blanchiment. Donc c'est ça leur
travail.
On en
est encore à l'ancienne avec la valise de
ah bah billets. Pas mal encore, oui, ah parce oui. que c'est ce qui laisse le moins de traces.
Les valises, ça coûte plus cher aussi quand même, hein.
Ça coûte de transporter une valise, c'est dangereux surtout.
Non, ça coûte plus cher, c'est pas le prix de la valise. C'est que si vous payez en liquide, c'est beaucoup plus élevé que si vous êtes sur des virements.
Bah, disons, le liquide sur des sommes de plusieurs dizaines de millions d'euros, c'est vrai qu'il faut pouvoir le mettre quelque part. Mais en général, quand c'est du liquide comme ça, c'est qu'il y a du dispatching. C'est pas 50 millions pour une personne, c'est 10 millions pour un tel, 20 millions pour un tel.
C'est joyeux.
Intermédiaire.
Certains, quand même, on a un peu l'impression que c'est un peu des pieds nickelés, quand même.
Ah oui, ça, oui. c'est sûr.
Alors. On a compris qu'ils se tirent la bourre entre eux.
Oui.
Et que, pour faire simple, alors je vais certainement caricaturer, Takieddine est plutôt associé au réseau sarkozyste, Hortefeux et Guéant.
Et Nicolas Djouri, Sarkozy aussi.
Oui. Et Sarkozy, hein. Et Noureddine Zidane, excusez-moi. et Djouri.
Djouri est
plutôt au départ villepiniste.
Alors, au début, il est chiraquien.
C'est un peu la même chose quand même.
Oui, mais il est resté villepiniste alors qu'il n'est pas resté chiraquien.
D'accord.
Ah, c'est la différence.
J'ai cru comprendre que Djouri, quand même, à la fin, il rejoint un peu les réseaux Sarkozy.
Ah, mais il n'a pas eu le choix. Je crois qu'en 2006, on lui a clairement fait comprendre que ça allait très mal se passer pour lui si jamais il ne ralliait pas le clan des sarkozystes, quoi. Et donc il n'a pas eu le choix.
Donc,
mais il le dit lui-même.
En même temps, Takieddine n'est pas très content de voir arriver Djouri dans son précaré.
Non, parce qu'il faut savoir, en fait, c'est souvent un intermédiaire, un clan politique. Voilà. Et chacun se fait la guerre pour récupérer sa part sur les grands contrats. Et c'est, voilà. Et ça, c'est une guerre terrible. Et ça a été la guerre des droites pendant des années. Donc cette guerre des droites, elle peut aussi se lire de ce point de vue-là, la guerre des intermédiaires, pour avoir accès au gâteau.
C'est quoi leur histoire personnelle? Djouri, vous dites qu'il a dirigé Isola 2000?
Non, ça c'est Takieddine. C'est Ziya Takieddine.
Takieddine a dirigé Isola 2000, il a rencontré Léotard à cette occasion-là.
Oui, voilà, il a commencé comme ça. Voilà, il a, commencé, il a commencé comme ça.
Ce qui fait qu'on retrouve Takieddine à l'affaire
Karachi, bien sûr. Hein, voilà. D'ailleurs, il est passé aux aveux. Hein. Il a porté la valise.
On voit aussi apparaître un autre personnage qui s'appelle Thierry Gobert. Ça, c'est tout à fait intéressant. Mais, alors, donc, ça, c'est Takieddine. Ils ont fait des études, ces gens-là?
Djouri n'a apparemment pas fait d'études, si ce n'est l'étude de la vie, quoi, de la rue, de la vie. Takieddine avait fait quand même quelques études dans le marketing, notamment. Takieddine vient d'une très grande famille libanaise. Il faut le
Bruse.
Voilà, oui. Hein? Tout à fait. Oui, il faut quand même le signaler. Il avait des oncles, des membres de sa famille qui ont été des personnages importants au Liban. Donc, c'est quelqu'un qui a des bonnes manières, qui est assez poli et polissé, qui porte beau. Il est tout l'opposé d'Alexandre Djouri, qui plutôt, lui, a été vraiment quelqu'un qui venait de banlieue, milieu assez modeste, qui a frayé dans le milieu de la nuit, dans les milieux africains, et puis qui s'est construit vraiment tout seul.
Et comment est-ce que Djouri approche Chirac? Vous dites qu'il était chiracien. Comment ça se passe?
Alors c'est assez flou, parce que Djouri refuse de parler, ne parle pas à la presse, rencontre en gros deux journalistes sur toute la place de Paris, qu'il connaît depuis plus d'une décennie maintenant, donc ne parle pas aux autres. Djouri, c'est assez flou, on ne sait pas trop comment il a été ramené dedans. Avec certitude, c'est assez flou. On sait qu'à un moment donné, il était assez proche, très proche de Gourdeau Montagne, qui était le Sherpa de Jacques Chirac.
Ça veut dire conseiller diplomatique.
Oui, conseiller diplomatique de Chirac, et puis Gourdeau Montagne, qui avait quand même la haute main sur les contrats à la fin.
Et qui suivait les affaires africaines aussi.
Et qui suivait les affaires africaines, tout en se bagarrant avec Michel de Bonnecorse, qui lui s'occupait de la cellule Afrique. Donc Djouri a toujours été dans ses entourages, lié aux affaires, et a réussi... par son talent, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, de commercial, de beau parleur, à s'infiltrer dans ces milieux. Mais lui, c'est vraiment fait tout seul. Quoi.
Alors, lequel des deux va, à votre avis, servir véritablement d'intermédiaire pour le financement de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ? Avec également la présence de Zouheil Rached.
Takieddine, non, c'est sûr, puisqu'il supplie tout le monde de lui donner les preuves sur le financement, donc non. Djouri, ce n'est pas établi, parce que c'est vrai que ce financement est intervenu courant 2006, donc c'est quand même l'année du ralliement de Djouri aux sarkozystes.
Trop tôt.
Donc c'est assez tôt, il a peut-être joué un rôle, mais bon, certainement périphérique. Moi, mon enquête m'oriente plutôt vers un troisième personnage, qui, pour le coup, je pense, est le secret le mieux gardé de la République dans ses affaires. C'est un monsieur qui s'appelle Souheil Rached, parfait francophone, qui est un Libanais d'origine palestinienne, qui est un ancien du FPLP, et dont le nom n'est en fait jamais sorti, et que j'ai obtenu tout à fait par hasard en Tunisie. Une source tunisienne m'a dit « Tiens, que devient Souheil Rached, lui qui a tellement fait pour la France et la Libye ?» Voilà, c'est parti de là, et en fait j'ai rencontré les différents acteurs, qu'ils soient chiraciens ou sarkozystes, des années 2005, 2006, 2007, et tous m'ont dit que Souheil Rached est extrêmement important et qu'ils travaillaient avec lui au quotidien. Voilà, au quotidien. Et c'est un nom qui n'est jamais sorti, donc c'est quelqu'un qui était un facilitateur, donc c'est le grade au-dessus de celui d'intermédiaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait de la diplomatie parallèle, de la diplomatie de l'ombre, qui est intervenu sur des dossiers absolument stratégiques.
Lesquels ?
Alors, antiterrorisme, il est intervenu sur des rencontres entre Libyens et Français, très vraisemblablement sur la facilitation pour des contrats, et puis sur des questions de financement, visiblement.
Vous dites chaque service de renseignement français avait son canal,
canal
sur la Libye. Alors la DGSE, donc il faut rappeler que c'est
le renseignement extérieur,
ce qu'on appelait jadis le SDEC et qu'on appelait le contre-espionnage dans un doux euphémisme. Ça c'était Abdallah Senoussi.
Travaillait avec Abdallah Senoussi.
La DST de l'époque c'était Moussa Koussa et Souhel Rachel.
Et la DCRI
c'était la DCRI
de Bernard Squarcini.
Avec Squarcini.
Voilà. Squarcini c'était Souhel Rachel.
Et Squarcini c'est la liaison directe avec Sarkozy bien sûr.
C'est la liaison directe avec Sarkozy pour toutes sortes de questions bien sûr.
Alors expliquez-nous qu'est-ce qui vous permet de dire voilà il y a eu de l'argent qui a été versé par les Libyens pour financer la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Voilà.
Alors, déjà, je rappelle, il y a quand même deux personnes clés, et ça, c'était public, du régime libyen, qui l'ont dit, affirmé publiquement. Il y a eu le fils Kadhafi, Saif al-Islam, qui a expliqué, plutôt éructé face aux caméras d'Euronews en plein conflit, au début du conflit, en mars 2011, que son père avait financé la campagne. Il y a eu aussi Abdallah Senoussi, qui a dit la même chose. Bon, ça, c'était public.
Ça, c'est pas suffisant comme.
Ah, c'est absolument pas suffisant parce que ça permet pas de définir un montant ni la manière dont ça puisse passer.
Ni même de les croire, forcément, je veux dire.
Ni même forcément de les croire,
puisqu'il y a
de la propagande, on est en guerre.
Ils ont tout intérêt à raconter ça, j'imagine,
voilà,
pour disqualifier et expliquer l'attaque de Sarkozy.
Voilà, alors moi j'ai quand même des très proches conseillers de Nicolas Sarkozy qui m'ont confirmé, en off, bien sûr, que oui, Nicolas Sarkozy, leur idole absolue, a pris de l'argent chez les Libyens. Voilà, ça m'a été dit en off, mais ça m'a été dit par des gens qui faisaient partie du premier cercle de l'ancien président. Et puis ensuite...
Excusez-moi, je vais poser une question complètement naïve, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens-là ils sont dans une phase de dépression profonde Ils sont pris d'un remords soudain Leur conscience leur parle la nuit
Ça paraît
proprement incroyable.
Je doute, mais
on est dans de la politique, on n'est pas chez les bisounours.
Non, on n'est pas chez les bisounours, mais quand c'est des gens que vous rencontrez depuis des années et des années...
Et c'est pas pour se faire mousser qu'ils vous disent ça.
Ah ben non, parce qu'ils me supplient de ne pas donner leur nom, et ce que je ne ferai jamais, d'ailleurs. Mmh. Mais ils me disent, oui, effectivement, Catherine, on te confirme, on peut le déplorer, mais c'est ainsi. Voilà. M'ont également confirmé des diplomates vraiment importants du Quai d'Orsay. Donc voilà, à partir de là, moi, je me suis dit, bon, il y a matière à gratter, maintenant, il faut trouver la base. Donc je me suis dit, bon, évidemment, côté français, je pense que ça va s'arrêter là, je n'aurai pas beaucoup plus de détails et d'informations, il faut chercher du côté libyen. Et donc, c'est là que j'ai commencé à essayer de retrouver les anciens du régime du colonel Kadhafi. Donc j'ai essentiellement travaillé à partir de la Tunisie, parce que c'était le plus pratique. C'est un pays où il y avait d'abord des Libyens, où il y a des Libyens, puis c'est un pays où des Libyens peuvent venir aussi.
Vous dites aussi que c'est la Tunisie, la communauté libyenne en Tunisie, c'est un truc de fou. Ils sont l'objet de pseudo-protecteurs qui les escroquent.
Ah, bah oui,
etc.
Franck peut en témoigner.
C'est vous qui témoignez, Franck, hein, on leur fait croire qu'il faut les protéger. Certains sont totalement escroqués.
Tout à fait. Bon, il faut savoir qu'actuellement, vous avez 2,5 millions de Libyens qui sont en exil sur une population de 6 millions d'habitants.
Voilà. C'est incroyable.
Donc vous avez à peu près 700 000 Libyens estimés en Tunisie.
Ah, où est-ce qu'ils sont ?
Bah, ils sont
plutôt sur Tunis ou à Gaza.
Sur Tunis, quartier Nasser, sur Sousse.
Et ils sont pas au sud. Ils sont pas sur.
Non. Sousse.
Ils ont quitté la.
Sousse, Hammamet, Tunis, essentiellement le quartier Nasser. D'ailleurs, ce qu'il y a sur Tunis, les loyers ont augmenté du fait de l'influence des Libyens. Il faut le savoir. Alors effectivement, vous avez toute une série d'avocats tunisiens qui ont profité de l'occasion pour monter des affaires, essayer de leur soutirer de l'argent. Il faut savoir aussi que vous avez actuellement, on peut dire que le gouvernement tunisien n'est pas des plus structurés en ce moment. Il suffit de voir un petit peu dans les médias.
L'actualité immédiate. Là,
voilà. Et vous avez des Libyens qui se font vendre par notamment la police, les services, et qui se voient enlever, passer clandestinement la frontière libyenne. Et voilà.
Ils disparaissent dans les sables libyens, on ne les retrouve jamais. Voilà. Mais il y a des enlèvements aujourd'hui. Les commandos libyens rentrent en Tunisie, enlèvent, les gens disparaissent.
Donc, ce qui fait que deux témoins du livre, Zora Mansour et Taher, sont cachés actuellement par peur d'être arrêtés. puisqu'on sait que Nicolas Sarkozy avait quand même, pour avoir mis en place ce gouvernement, des contacts assez forts encore maintenant. Donc on est très prudent. Mais je tiens quand même à revenir sur le fait de ces 2,5 millions de Libyens, puisque vous allez me dire qu'il y a un processus démocratique qui a eu lieu en Libye. Il faut savoir que vous avez l'article 6 promulgué par la loi électorale du CNT qui interdit aux anciens fonctionnaires de la Jamaria libyenne de pouvoir se présenter aux élections. Alors ça représente 2,5 millions de personnes. Voilà. Donc sur 6 millions d'habitants. Hein, je tiens quand même à le préciser. Donc c'est l'objet d'ailleurs et la raison pour laquelle nous avons créé une association qui s'appelle le Rassemblement International pour une Libye unie et démocratique, puisqu'il est aberrant, alors quand vous voyez les diplomaties occidentales, quand on voit Laurent Fabius qui se félicite du processus démocratique en novembre dernier lors de sa dernière visite à Tripoli, quand vous avez les observateurs de la communauté européenne qui se félicitent du processus démocratique, je tiens quand même à rappeler lors de l'effondrement de l'URSS, les communistes ont pu se présenter. Là, vous avez 2,5 millions de Libyens qui ne peuvent pas se présenter et qui sont en exil. Un retour au pays serait pour eux un terme... au niveau de leur sécurité et de leur vie. Il faut savoir qu'en ce moment en Libye, vous avez, nous on a un réseau de Libyens bien évidemment sur place qui ont recensé 71 prisons secrètes, qui ne sont plus de fait, où la torture est pratiquée au moment où je vous parle, donc électricité, tout y passe. Et en général, ça concerne des anciens fonctionnaires. Alors on va dire les anciens du régime, mais c'était des fonctionnaires.
Et ces prisons secrètes, centres de détention, centres de torture, alors ils sont tenus par différentes fractions qui ont composé le CNT ?
Tout à fait. Essentiellement les brigades de Misrata, islamistes intégristes, qui ont été amenées et soutenues par notre cher philosophe Bernard-Henri Lévy. Il serait quand même important de rappeler que cet individu a mis en avant, en se rendant à l'Élysée, en demandant des armes. Ces armes étaient destinées à ces milices intégristes, islamistes. Ces mêmes milices qui, en ce moment, appliquent la charia en Libye. C'est-à-dire que si vous avez une femme qui ne porte pas le voile en Libye maintenant, elle va recevoir 40 coups de bâton. Ou se faire violer, comme on a pu le faire dernièrement, on a déposé une plainte au CPI, vous avez une jeune fille de 22 ans qui ne portait pas le voile, qui s'est fait violer par 52 membres d'une brigade islamiste intégriste.
Est-ce que la difficulté ne tient pas aussi au fait que le régime de Kadhafi était particulièrement violent et particulièrement policier et j'allais dire, Annick Cojon a parfaitement montré dans son évocation de ces pauvres filles qui étaient dans le harem de Kadhafi, le caractère totalement odieux du régime. C'est pas non plus un régime qui était défendable, non ?
Non, mais c'est pas le problème. Je crois pas qu'il faille regarder la chose de cette manière-là. D'ailleurs, si Kadhafi avait été aussi tyrannique qu'on nous l'avait présenté, je pense qu'il aurait maté violemment à Benghazi lorsque les premières manifestations sont arrivées. Il aurait maté violemment les quelques milliers de personnes.
Comme Bachar el-Assad.
Vous savez, je pense qu'on a, nous, une orientation actuellement de ce qui se passe là-bas. Par rapport à ce qu'on veut bien nous montrer. J'en prends pour preuve, lorsque je suis revenu de Tripoli, j'ai tenté en vain de contacter différents médias. Bon. Puisque j'estimais, avec d'autres personnes qui s'étaient rendues avec moi, avoir une légitimité du fait qu'on était... on a constaté. On nous a fermé la porte. Et je me souviens bien d'ailleurs, un journaliste de France Inter qui m'a dit « Écoutez, Monsieur Poucharali, nous suivons la ligne du Quai d'Orsay. »
Je reviens à la fameuse histoire de transfert de fonds, puisque il semblerait que c'ait été filmé avec la présence de trois Français, dont une, vous dites dans le livre, est une personnalité connue des médias, connue de la scène publique. C'est qui ? C'est plus sorte feu ?
Non, on peut vous donner la couleur du costume et de la cravate si vous le souhaitez.
Allez-y.
Costume anthracite et cravate noire rayée blanc, losange. Voilà.
Non, c'est que c'est pas Brice Hortefeux.
Bon, c'est pas Eric Besson.
Non, pas du tout. Besson est lié à la Tunisie.
Faites vos recherches sur Internet maintenant, vous allez prendre des cravates de tous les hommes politiques en 2006.
Parce qu'à un moment, vous évoquez un petit peu Eric Besson dans le livre.
Non, c'est pas Besson du tout.
Il y a trois personnes, voilà, c'est filmé. La question, c'est de savoir où sont ces documents maintenant. Allez-y. Vous allez dire juste pour revenir.
Juste pour revenir sur le pourquoi du comment de ces informations. Donc, c'est un témoin qui s'appelle Tahar. C'est le témoin qui a été torturé par des Français, et je dis bien sauvagement torturé, et qui porte plainte contre la France.
C'est lui qui a eu accès à votre dossier quand vous étiez petite fille.
Pour torture, et qui a eu accès à mon dossier quand j'étais bébé. Donc Tahar, lui, occupait un poste extrêmement important dans l'appareil sécuritaire libyen, enfin de Kadhafi, et était de facto très souvent à ses côtés, que ce soit dans ses déplacements à l'étranger ou à l'intérieur de la Libye. Et Tahar a été un témoin oculaire, et je dis bien oculaire, de deux étapes stratégiques du financement de Nicolas Sarkozy. Première étape, une réunion qui s'est tenue courant 2006 à l'hôtel Corinthia à Tripoli, entre justement trois Français et des Libyens, et réunion qui portait sur la somme à acheminer en France et comment acheminer la somme. Première chose. Deuxième chose, quelques semaines plus tard, Tahar a été un témoin oculaire, et je souligne bien oculaire, de la deuxième et la dernière étape du financement, qui est l'acheminement des fonds, puisqu'il était aux côtés du colonel Kadhafi, qui en décembre 2006 se trouvait à Sirte. Tout cela est facilement vérifiable. Colonel Kadhafi qui ordonne à ses serviteurs, dont le fameux Bachir Salé, d'envoyer maintenant l'argent en France. Voilà. Et pour la campagne de Nicolas Sarkozy, bien sûr. Donc il est témoin oculaire de ça. Et tout ça, il le raconte et il témoignera devant la justice française. Il explique ensuite que c'était une somme totale de 57 millions d'euros. Bon, 7 millions d'euros étaient pour des intermédiaires libanais, deux frères, et que 50 millions étaient pour les Français. Donc il dit que ça s'est fait en deux fois. Une première fois, l'acheminement en avion, un avion de location français, qui la dernière semaine de décembre 2006 a fait un vol Sirte-Djerba-Le Bourget. Pour acheminer l'argent. À son bord, il y avait Bachir Salé, qui était accompagné de trois autres Libyens et avec un équipage français de deux personnes. Donc les informations, encore une fois, sont très précises. Et que l'autre partie de l'argent, à savoir les 20 millions d'euros, ont été gérés par l'ambassade de Libye à Paris, qui l'a géré vraisemblablement par des virements bancaires, dont une partie aurait transité par des pays africains, par exemple la Côte d'Ivoire.
Et le Niger.
La Côte d'Ivoire, l'univers c'est autre chose, mais la Côte d'Ivoire. Donc voilà des informations très précises. Donc aujourd'hui, ce Tahar ne demande rien, ne veut rien de la France, surtout pas. Il va porter plainte pour les tortures et est disposé à témoigner devant.
C'est vous, Franck, qui avez présenté Tahar à Madame Grassi.
Oui, tout à fait.
C'est ce que Franck et Fabrice m'ont également mis en contact avec Tahar, l'homme qui a été torturé à l'électricité. Et vous dites, très vite, Franck, vous réitère fermement la condition sine qua non émise par Tahar et par de la Tahar par les hommes de Saïf el-Islam. Le fils Kadhafi doit sortir de Libye. Ses preuves sont son assurance vie, en quelque sorte. Il est possible de le faire qu'il soit libéré de là où il est, de Zenten, mais il faut l'exfiltrer.
Tout à fait.
Comment vous savez ça?
Pardon.
Que Saïf el-Islam est prêt à témoigner si on le fait sortir, hein, puisqu'en fait, il est clairement demandé au gouvernement
français. Mais c'était pas dans ce sens-là. Non. Si vous voulez, le point était le suivant. En échange de la vidéo et des preuves, vous nous aidez à libérer Saïf el-Islam.
Ça veut dire que vous avez. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas le contact direct avec Saïf el-Islam.
On ne peut pas, de fait, il est actuellement incarcéré.
Ouais. Mais il aurait pu y avoir
C'est très compliqué, même son avocate, l'avocate du CPI, a été, lorsqu'elle a rendu visite à Saïf al-Islam à Zenten, a été incarcérée pendant 40 jours par les autorités de Tripoli.
D'accord. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui, de la résistance verte, comme on dit dans le livre, qui sont susceptibles de monter un commando pour libérer Saïf al-Islam de sa prison de Zenten. Si les autorités françaises veulent qu'il apporte la confirmation de ces documents, il faut simplement le faire sortir de Libye.
Tout à fait.
C'est aussi simple que ça.
Au niveau des preuves, en fait, faut savoir...
Elles ont été confiées à un ami.
Oui, tout voilà, à fait, les preuves... Fait. En fait,
un ami d'enfance. Hein.
Quand ça, il fait
on dit qu'elles sont à Koufra, vous dites qu'elles sont à Koufra.
Elles ne sont plus à Koufra. Genre.
Elles ne sont plus à Koufra maintenant.
Non.
Mais quand Saïf al-Islam a déclaré à la télévision que Sarkozy avait pris l'argent de son père, Muammar Kadhafi, le colonel Kadhafi était assez mécontent de la déclaration de son fils et lui a dit, voilà, moi je suis un bédouin et dans notre tradition, dans notre esprit, j'ai fait cette bêtise et maintenant je vais l'assumer, je vais la porter. Donc je ne vais pas, je souhaite pas rendre public.
Vous dites aussi, pardon, Madame Gracier, que sans doute que Kadhafi a cru jusqu'au bout. Ah, dans Sarkozy.
Jusqu'au bout. Jusqu'à la chute de Tripoli. Il s'est réveillé en juillet à peu près. Juillet 2011, il s'est réveillé et là, il a envoyé les émissaires. Mais c'était trop tard.
Est-ce que vous avez exclu totalement l'hypothèse d'une totale opération d'enfumage de Saïf al-Islam, etc., qui essaye finalement de monnayer sa survie? En faisant croire qu'il a des preuves.
Non, mais attendez.
Les preuves, les gens les ont vues.
Déjà, les preuves ont été eues, mais Saïf al-Islam n'est pas en mesure de monnayer quoi que ce soit, puisqu'il n'a de contact avec personne depuis son incarcération. Donc, si vous voulez, là, on a affaire à des proches qui souhaitent voir Saïf al-Islam libéré. Mais ce n'est pas la demande de Saïf al-Islam.
D'accord. Et ses proches peuvent monter une opération d'intoxication?
Non. Kadhafi avait toujours l'habitude de filmer tout. Il y a d'ailleurs des vidéos qui sont sorties.
Je me fais un peu l'avocat du diable.
Bien sûr.
Des gens ont été suffisamment imprudents, sachant ça. Car on est dans un monde où tout se sait sur les pratiques des uns et des autres. Évidemment, ce n'est pas non plus des naïfs. Des personnes sont allées chercher de l'argent, ont conclu en tous les cas un accord de financement au culte de campagne électorale en traitant avec des généreux donateurs dont on pouvait imaginer, bien sûr, qu'ils allaient garder les preuves de ces dons.
Mais ça a toujours existé en France.
Je crois qu'avec
Omar Bongo, ça a été le cas sous différents présidents. Il y a toujours eu des négociations, il y a toujours eu des financements politiques opaques en provenance de différents pays, notamment africains. Donc je pense que c'était quelque chose dans la tradition, d'une tradition très française, au fond.
Et puis en 2006, il n'était pas question de renverser Muammar Kadhafi. Je tiens quand même à le préciser.
Il était question de libérer les infirmières.
Voilà. De renouer des contrats, choses qui ont été faites d'ailleurs par la suite.
D'accord, non, mais c'est juste pour avoir la cohérence du dispositif.
Vous savez, le maire de cette ville, qui était à l'époque ministre des...
des Affaires étrangères.
J'étais contre l'intervention libye.
Tout à fait.
Au même titre que le ministre de la Défense.
Au même titre que Claude Guéant aussi.
Claude Guéant. Même Sarkozy, était contre.
Justement, vous venez de citer Claude Guéant. Il est cité à la fin de votre livre. On le voit très clairement apparaître. Et votre post-scriptum, ça s'appelle la dynamique de...
Alors, c'est pas Guéant sur la vidéo, non.
Pardon, c'est pas... Vous
allez me poser la question.
Non. À la fin, dans votre post-scriptum, la dynamique, il y a un sous-titre, c'est... Un intertitre, c'est Claude Guéant rattrapé par la Libye.
Ça, c'est l'histoire des fameux deux tableaux.
Alors, bon, c'est l'histoire des fameux deux tableaux. On comprend dans l'affaire des infirmières que, en réalité, c'est pas lui qui pilote Cécilia Sarkozy.
C'est son mari, Cécilia, ça c'est sûr.
Est-ce que Claude Guéant est le fusible qui va définitivement être grillé dans cette affaire? Et quelle suite vous pensez, j'allais dire juridique, non pas par rapport à votre livre, mais qu'est-ce qui peut arriver désormais? Quel est le volet judiciaire de l'affaire? On sort d'une séquence bordelaise que vous avez forcément vue hier. Il y a eu une ordonnance de non-lieu pour Nicolas Sarkozy dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Neuf autres personnes, elles, sont renvoyées en correctionnel. Le seul qui ne l'est pas, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a 5 autres affaires au moins qui sont pendantes en ce moment, hein, Karachi,
Tapie, c'est la plus grave, Tapie.
Et est-ce que ça, c'est une affaire qui est en train de gonfler avec, il y a des juges, le juge Leloir et le juge Van Ruymbeek qui...
Alors, Van Ruymbeek n'est pas sur le financement, libyen, c'est le juge Tourner.
Tourner,
qui travaille dessus. Moi, je sais qu'il enquête avec la PJ, la police judiciaire, enfin, énormément, mène un nombre incalculable de perquisitions. Rencontre énormément de témoins, donc oui, j'ai l'impression qu'il travaille.
Et les deux témoins, Libyen Tahar et Madame
Mansour.
Madame Mansour, vous pensez qu'ils vont être entendus?
Ah, c'est sûr.
C'est sûr, c'est en cours. C'est en cours actuellement.
Donc ils vont quitter la Tunisie, bénéficier d'une protection particulière?
Policière, bien sûr.
Tout à fait.
Française?
Bien sûr.
Policière ou des services?
Policière.
Bien. Bah écoutez, c'est un véritable roman feuilleton, si je puis dire.
C'est à l'image de notre classe politique, malheureusement.
Mais c'est pas de la fiction. Non, hein,
c'est pas de la fiction.
Franck, vous pouvez nous dire quel est l'état actuel de la résistance verte en Libye et comment les choses... Vous avez des contacts, j'imagine, évidemment, permanents par le Rilud, là. Vous avez, à un moment dans le livre, vous témoignez quelque chose de tout à fait étonnant. Vous dites, on nous a fait croire qu'il y avait une révolte sur Twitter. C'était tellement délirant.
Oui,
sur le nombre de personnes qui avaient réalité
il y a plein de petites anecdotes comme ça. Il faut savoir que le Qatar a récupéré les concessions gazifières, parce qu'on parle du pétrole, mais il ne faut pas oublier le gaz. Hein. Le gaz, c'est 4 millions de mètres cubes jour. Qui en sortent. Vous avez Jazeera, chaîne qatari, qui n'a eu de cesse de désinformer. Repris par Bernard-Henri Lévy. Vous me direz, j'en veux avec cet individu, mais je pense que c'est quand même assez grave, parce que cet individu a mis à mal la politique française, par son ingérence d'ailleurs. Monsieur Juppé, d'ailleurs, je m'en souviens, était fortement mécontent de son ingérence. D'ailleurs, il suffit de lire le livre de Bernard-Henri Lévy pour comprendre, dans son serment de Toubou, où ce dernier se félicite de ramener 20 chefs tribaux, donc je reviendrai sur les tribus. Il faut savoir que la Libye, c'est 2167 tribus. Alors, quand vous voyez Bernard-Henri Lévy qui se félicite d'un consensus avec 20 tribus qui ne représentent quelques dizaines de milliers d'habitants, ça en dit long, si vous voulez, sur la méconnaissance des journalistes à l'époque sur la Libye. Donc le Qatar, une petite anecdote, on voit des images qui sont filmées, on voit des drapeaux du CNT, du gouvernement actuel. On nous présente ces images comme se passant à Benghazi ou à Misrata. Or, il n'en est rien. C'est filmé en Irak, au Yémen. On va dans les villages pauvres et on a des preuves de ça. Hein. C'est-à-dire, moi, j'invite le Qatar ou Al Jazeera à déposer plainte contre moi, j'en serais ravi, puisqu'on a les preuves de ce qu'on avance. Et vous voyez, donc on donne 50 à 100 dollars à chaque personne pour tenir le drapeau, on filme et on présente dans les médias internationaux qu'il y a une manifestation qui est en train de se dérouler, pro-CNT, à Misrata, à Tripoli, par exemple. Vous avez le fameux bombardement de l'aviation de Kadhafi à Tripoli, repris par Bernard-Henri Lévy, on nous annonce 6000 morts. Il n'en est rien. On parle avec les habitants, ils entendent à la télé que Kadhafi va bombarder. Alors tout le monde sort, quartier Abou Slim, tout le monde sort. Et plusieurs milliers de personnes qui dorment dehors, pas d'avion. Le lendemain matin, ils allument la télé, on leur annonce 6000 morts. On nous parle des mercenaires.
Il faut savoir que les trois quarts des avions de Muammar Kadhafi n'étaient plus en état de voler.
N'étaient pas en état de voler. On nous parle des mercenaires africains. Je reprends les propos de Amnesty International l'année dernière, qui, après une enquête très sérieuse, ont constaté qu'il n'y a jamais eu de mercenaires africains.
Donc on voit bien qu'il y a un vrai travail sur les médias, d'intoxication, etc., avec un arrière-fond qui est un arrière-fond, évidemment, d'intérêts commerciaux, d'intérêts énergétiques,
géopolitiques.
J'allais vous dire, il n'y a pas une guerre qui ne fonctionne pas sur ces problèmes-là.
Oui, là, si vous voulez, quand vous avez la résolution 1973, qui est censée protéger les populations civiles, bon. Et la conséquence des bombardements de l'OTAN et des bombardements des pseudo-rebelles révolutionnaires libyens, actuellement, il y a un travail qui est fait par les tribus. On est à plus de 150 000 morts sous les bombes de l'OTAN. Alors, vous avez l'OTAN par son général, l'ancien général canadien, qui reconnaît 48 morts en dégâts collatéraux, là, on est à 150 000 morts. Donc, il faut m'expliquer, il faut nous expliquer. D'autant plus que cette résolution a été, et c'est un précédent quand même, il faut quand même le savoir, de par votre fonction, c'est la première fois qu'une résolution a été votée sans qu'aucun observateur de l'ONU soit présent, malgré l'insistance du gouvernement à l'époque, la Jamhourie libyenne, de demander des observateurs. C'est-à-dire qu'on a mis une résolution en place uniquement sur les ouï-dire des journalistes.
Avec un chapitre 7, effectivement, un recours au chapitre 7 qui a été, d'où d'ailleurs les effets sur la situation syrienne actuelle, qui a tordu le bras à la Russie.
Bien sûr.
En fait, les cas, moi, je vous encourage vraiment à vous plonger dans ce livre, parce que c'est une manière extrêmement vivante de nous montrer un autre monde, en tous les cas.
Un vrai monde, en tous les cas,
une situation. Vous voulez dire un mot, Franck, encore?
Non.
Voilà. Merci à vous pour votre attention.
Merci.